C'est ça que j'adore en fait, c'est hyper varié quoi. Il y a vraiment tout le côté contact avec l'éleveur, contact avec la filature, la filière de traitement de la laine. Il y a encore les contacts avec les filles qui produisent des plantes tinctoriales.
Bienvenue sur Les Mains Libres, une série de rencontres avec des artisans et agriculteurs français à la découverte de leur savoir-faire manuel.
Je m'appelle Louise, je suis bientôt ingénieure agronome et j'avais besoin de partir un bout de temps à la ferme pour trouver ma place dans le milieu agricole.
Et moi c'est Julien, j'ai quitté mes études pour découvrir des métiers manuels dans lesquels je pourrais me reconvertir.
Pendant un an, on a parcouru la France de ferme en ferme avec Poppy, notre camion aménagé, et on a enregistré de jolies discussions avec ces personnes qui nous inspirent.
T'écoutes Les Mains Libres et ça commence tout de suite.
Après le générique. Pour ce 13e épisode des Mains Libres, on est encore en Ariège, mais cette fois avec Hélène qui travaille la laine feutrée. Hélène nous raconte les étapes qui l'ont menée à devenir feutrière, teinturière, couturière ou encore jardinière, comment elle jongle avec toutes ses casquettes et elle nous explique même comment feutrer en direct de l'atelier. On te souhaite un super moment avec nous, c'est parti. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez toi.
Oui, avec plaisir.
Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter rapidement ton entreprise, ce que tu fais?
Du coup, je m'appelle Hélène, j'ai 30 ans. Après quelques années comme prof de français, je me suis reconvertie et donc je suis feutrière. Je fabrique des vestes en laine feutrée. Ça fait 2 ans que je fais ça, je pense.
Et du coup, comment t'en es arrivée à faire ça? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée, les motivations, tout ça?
Je me rappelle pas comment j'ai eu l'idée du feutre. Je pense que ça a été un faisceau de plein de pistes qui à un moment se sont rassemblées. Je me suis dit, ah oui, c'est ça. Ben, y a eu le fait que j'ai eu besoin de sortir d'un cadre avec des règles et des contraintes, une hiérarchie débile et voilà, d'avoir un espace plus libre, donc d'être à mon compte. Y a eu le fait que j'ai aidé mes voisins à la tonte et que j'ai vu que la laine était jetée. Et le fait que j'adore le textile, j'ai beaucoup cousu avec ma mère. Ma grand-mère a failli être couturière, mais c'est un destin raté. Finalement, elle a été bonne à tout faire. Mais du coup, j'avais beaucoup cousu avec ma grand-mère, avec ma mère. Je pense qu'il y avait vraiment un côté lié au féminisme aussi et au féminin. C'est-à-dire que le textile, c'est quand même assez féminin, quoi. Même si ça n'a pas toujours été le cas. Et je pense que ça m'allait bien d'aller vers la revalorisation de savoirs féminins qui ne sont pas mis en valeur, quoi. Il y a eu tout ça ensemble. Et après, une fois que j'ai commencé à m'intéresser un peu au milieu de la laine, j'ai rencontré plein de femmes qui travaillent la laine, et je me suis dit, elles ont l'air vraiment chouettes. Ce milieu a l'air vraiment chouette. Et je pense que c'est un peu tout ça. Et après, pourquoi le feutre spécialement? Il y a eu le côté plastique, le fait que ça soit vraiment... Alors, c'est pas ce que je fais, puisque moi, je fais de la 2D, mais on peut vraiment faire de la sculpture. Et ça m'a quand même vachement attirée. Et puis, il y a quand même une question d'efficacité, c'est-à-dire que pour faire la même surface de feutre, de tricot ou de tissage, bah, c'est vraiment le feutre qui est le plus rapide. Et comme moi, un de mes objectifs, c'était de faire des choses qui ne soient pas du luxe, ouais, qui soient accessibles au plus de personnes possible, bah, ça comptait. Et il y a aussi la solidité. Le feutre, c'est solide, on peut se balader dans les bois, on peut crapahuter dans les ronces. Et moi, ça m'allait de passer beaucoup de temps sur un objet, mais il fallait qu'il puisse durer dans le temps et que ça ne soit pas juste un truc qu'on met... chez soi pour être propre ou en ville, parce que moi c'est pas mon mode de vie et c'est pareil, ça m'intéressait pas de produire pour un milieu que je côtoie pas ou des activités que je pratique pas, quoi.
Ouais. Du coup, les différentes pièces dont tu nous as parlé, c'était pas mal des vêtements de travail, enfin des manteaux de travail, des vestes de berger par exemple, des choses comme ça. Et je pense que ça va bien avec ce que tu nous dis là, parce que c'est des vêtements qui sont utilisés, portés, ouais, tous les jours, etc.
Après, j'ai vraiment 2 types de clients.
Ouais.
J'ai des clients, par exemple, j'ai eu un couple de montagnards qui m'ont dit on veut une veste ultra solide, on va la mettre tous les jours pour travailler dehors. Et j'ai des citadins qui me disent voilà, je voudrais un truc un peu élégant, pas trop chaud parce que je vais le mettre aussi en mi-saison. Enfin, j'ai vraiment deux, okay, types de clients, quoi.
Mais c'est bien d'avoir ces deux choses-là, parce que du coup ça alterne un peu, tu fais pas toujours la même chose.
Exactement, c'est varié. Et oui. J'aime bien cette aspect.
T'as dit que t'avais rencontré beaucoup de gens avant de te lancer dans le feutre. Est-ce que du coup t'as eu une formation Est-ce que tu savais déjà en faire avant ou bien même la couture?
Ouais, alors pour la... Bah, ce que je savais faire, c'est que j'avais appris avec ma grand-mère, ma marraine et ma mère, j'avais appris plein d'aspects du textile. Donc, je savais coudre assez bien, mais avec un niveau du coup de gens qui ont appris en autodidacte, que ce soit ma mère, ma grand-mère, du coup avec des lacunes à des endroits inattendus et des choses que je savais bien faire qui étaient plus difficiles. Du coup, quand j'ai refait une petite formation de 4 jours, et là, j'ai dû, comment dire, niveler un peu mes connaissances pour avoir un niveau correct dans tous les domaines. Ça, je l'ai fait avec une feutrière qui faisait comme moi du feutre cousu, donc que j'ai appelé pour qu'elle me fasse une formation. Après, je connaissais assez bien le textile, au sens où je savais broder, faire de la dentelle, du crochet, du tricot, coudre correctement. Mais je connaissais pas du tout le feutre. C'est vraiment en arrivant en Ariège que j'ai découvert le feutre. Et ensuite, en fait, j'ai commencé à rencontrer des gens une fois que j'ai eu un peu feutré par moi-même. Et vraiment en autodidacte, donc avec Internet et des livres.
D'accord.
Et parce que j'ai un peu un fonctionnement où j'arrive pas à me former si je connais rien. Parce que j'ai l'impression que je vais pas profiter vraiment de la formation. Donc du coup, j'ai commencé par faire mes trucs pendant presque un an. Je faisais des petites pièces, des petites expériences, de la teinture végétale sur une toute petite échelle. Et une fois que j'ai eu fait ça, que j'ai eu fait pas mal d'erreurs aussi, et ben là j'ai commencé à faire un petit marché de la laine, rencontrer les femmes de la filière, transformer de la laine en plus grande quantité, et du coup, et faire des formations. Alors après, pour le feutre, j'ai jamais fait de formation. J'ai appris vraiment par moi-même. Mais pour les couleurs végétales, ça, j'ai fait des formations.
Mais du coup, on va en profiter, vu que là, on est dans ton atelier, ouais, pour que tu nous expliques un peu les différentes étapes que tu fais,
ouais,
les choses que tu fais faire, les choses que tu ne fais pas ici, carrément, on en reparlera. Et du coup, bah, on veut les savoir-faire que tu utilises.
Oui.
Peut-être dans l'ordre chronologique, si
oui,
tu peux.
Tout à fait. Alors, pour arriver à une veste, je commence par aller à la tonte, donc à récupérer la laine brute. Donc j'ai un arrangement avec un éleveur qui est juste à côté de chez moi. Je lui ramène 6 ou 10 personnes pour aider à la tonte et j'ai la laine en retour. Donc là, c'est déjà une étape super importante parce que ça veut dire que je connais les brebis, je connais la qualité de la laine, je connais l'éleveur parce qu'il faut que moi j'organise chez lui un chantier de tonte qui me convient. Donc très propre, où on passe le balai régulièrement pour qu'il n'y ait pas trop de paille dans la laine. Aussi, en fait, ça bouscule l'éleveur parce que je ramène plus de personnes parce qu'il faut trier la laine au moment de la tonte. Ça veut dire que dans l'espace aussi, il y a une organisation que l'éleveur n'a pas forcément d'habitude, puisqu'il y a des personnes qui vont ramasser la laine, la porter à la table de tri. Donc ça rajoute, il faut bien optimiser tous les déplacements de toutes les personnes pendant la tonte, puisque c'est un moment où il faut aller vite. Voilà, donc ça c'est une première étape. Ensuite, une fois que j'ai ça, donc je ramasse à peu près 200 kg de laine tous les 3 ans, on va dire. Une fois que j'ai mes 200 kg triés, je les amène à la filature de Nyon. Donc c'est à 1 heure d'ici, j'ai vachement de chance d'avoir une filature juste à côté, et en plus c'est une équipe extraordinaire. Donc là il me la lave et il la carde, donc je récupère les nappes cardées, ça veut dire que moi il faut que je m'organise parce que je les récupère des fois peut-être 6 mois après, ça dépend comment c'est pour eux au niveau de la file d'attente. Une fois que je récupère mes nappes cardées, et ben là je vais feutrer. Donc je dispose la laine, je fais des nappes, des grandes nappes, avec l'épaisseur que je veux, éventuellement les motifs que je veux. Et là, j'arrive à la machine à feutrer.
Bon, bah du coup, on se retrouve à l'atelier que tu loues de temps en temps pour utiliser la machine à feutrer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les étapes que tu fais dans cet atelier?
Oui, donc c'est un atelier où il y a plein de machines qui sont mises à disposition. Il y a d'abord la petite cardeuse. Elle sert au début du processus, une fois que la laine est juste lavée et qu'elle est passée dans un loup qui sert à aérer les fibres, qu'il y a aussi ici, mais je m'en sers pas. Et ensuite, elle vient dans cette machine qui est un genre de peigne géant avec des rouleaux, avec des dents. La laine passe entre tous ces rouleaux et elle sort Alors peignée, c'est un mot qui veut dire qu'elle est encore mieux tamisée que ce que fait la cardeuse, mais donc elle sort cardée. Ça veut dire que les fibres sont à peu près dans le même sens, et ça sert aussi à finir d'enlever les brins d'herbe ou de saleté qui peuvent pas être dissoutes dans l'eau quand on lave la laine. Donc ça, je m'en sers pour faire des couleurs spéciales, soit pour mélanger des couleurs entre elles, soit quand j'ai deux ou trois toisons d'une couleur que j'adore et que je veux pas mélanger avec le reste, je les passe juste à cette cardeuse.
Moi, j'avais une petite question, ce que je voyais. À chaque fois, il y a des petites brindilles, comme tu as dit. Ouais. C'est pas un problème pour que ça feutre ou juste après pour utiliser dans un vêtement ?
Non. C'est sûr, il y a des petits bouts de paille, il y a des petits végétaux. J'en enlève le plus possible, mais il en reste toujours. Après, une fois teint, ça se voit moins. Et une fois que le feutre est bien, bien feutré, en fait, ils ont tendance à ressortir. Donc là, une fois que j'ai terminé une veste, je passe un peu et j'enlève le plus possible. Après, c'est du... Quoi, c'est de la... C'est ligneux, quoi. C'est de la paille, donc ça va pas pourrir ou ça va, quoi.
Et puis tu me disais l'autre jour que les clients, ils aiment bien, finalement, qu'il y ait des petits bouts parce que ça fait plus artisanal et tout ça.
Ça donne, sur les plaques blanches, ça donne un effet un peu papier, papier artisanal ou parchemin, que les gens me demandent souvent.
Ok, super.
Et juste, dernière chose par rapport à la cardeuse, du coup, tu l'utilises en plus de celle de la filature. Oui. Toute ta laine, elle passe dans la cardeuse de la filature. Et en plus, de temps en temps, tu l'utilises pour des... Cette petite cardeuse-là, tu l'utilises en plus pour certaines actions.
Oui.
Ok. Bah, on peut passer à la suite.
Ouais. Alors après, on a la machine à feutrer. Donc, il y a des grandes tables inondables sur lesquelles on peut poser les nappes de laine qu'on va venir mouiller, savonner, frotter pour que la surface commence à feutrer. Ensuite, on les roule dans un grand plastique, parce qu'on vient d'essayer avec le tissu et c'est nul. Franchement, ça ne marche pas bien. cette couche de laine dans son plastique est enroulée autour d'un grand tube en fer qui rentre ensuite dans la machine à feutrer. Il va venir se poser sur un rouleau qui, lui, est carré et qui va tourner. Il va donc entraîner celui sur lequel il y a notre feutre. Et dessus, il y a encore un autre rouleau qui sert de poids. Et donc tout ça va tourner, en fait on le fait tourner un peu, on sort, on retourne, on vérifie que la nappe va bien, qu'il n'y a pas trop de plis, qu'elle ne s'est pas déchirée, on vérifie où en est le processus de feutrage, on la ressavonne et on la remet. Et donc elle va être frottée par la machine, ce qui économise pas mal de force physique.
Et donc au fur et à mesure, à chaque fois qu'on enlève la laine de la machine, on rajoute du savon, de l'eau chaude, etc.
Ouais, c'est ça.
Pour... continuer le processus, parce que en fait ça a tendance à refroidir dans la machine.
Oui, et puis à être essoré. Et donc le feutre, c'est vraiment frottement, chaleur et un pH extrême, basique, là avec le savon. Donc si on perd la chaleur et un peu de savon, il faut qu'on remette pour avoir vraiment les trois éléments pour que la réaction se fasse. Ouais.
Et une fois que les nappes sortent de la machine à feutrer, qu'est-ce qu'on fait ?
On les rince le plus possible, on les essore avec une essoreuse géante, et après il reste à passer encore 2 heures dessus à la main pour terminer, parce qu'au bout d'un moment, la machine aide beaucoup, mais au bout d'un moment, le processus s'arrête, et donc il continue quand on le reprend à la main, parce qu'on ne fait pas le même mouvement.
Et donc ensuite, tu reviens dans cet atelier.
Oui, je reviens dans mon atelier où là, je dois encore passer 4 heures sur chaque plaque que j'ai faite qui sort de la machine, donc à la main. Donc là, j'ai une table exprès pour faire ça dans mon atelier. Une fois que le feutre est bien dense, qu'il est terminé de feutrer, je vais éventuellement le teindre, si jamais c'est une veste en couleur. Donc là, j'ai un espace teinture dans mon atelier, avec l'eau, des grandes bassines, une baignoire pour rincer, tout ça. Je teins avec des plantes que je cultive en partie, et en partie que j'achète, parce qu'il y a des couleurs où c'est quand même vraiment difficile de le faire comme ça, en plus de tout le reste, quoi. C'est un métier à part entière. Et d'autres où j'arrive à ramasser, à avoir en grande quantité facilement, sans y passer trop de temps, donc j'ai un peu des deux. Et une fois que c'est teint, ben là je vais pouvoir faire les patrons, donc dessiner mon modèle, et ensuite découper et coudre.
D'accord. Donc en fait, tu fais toutes les étapes toi-même.
C'est ça que j'adore en fait, c'est hyper varié quoi. Il y a vraiment tout le côté contact avec l'éleveur, contact avec la filature, la filière de traitement de la laine, Après, il y a encore les contacts avec les filles qui font des couleurs, parce que j'ai trouvé des filles dans les Bouches-du-Rhône qui font ça, qui produisent des plantes tactoriales. Et il y a tout le côté patronage, où là, c'est vraiment de l'intellectuel, quoi, on va dire. Et puis après la vente, donc le contact, enfin les marchés de la laine, qui sont un peu des fêtes, le contact avec les clients, enfin voilà, c'est ultra varié quoi.
Et du coup, tu as aussi une partie production de plantes.
Oui.
Où tu fais, du coup, pas pour toutes les couleurs, mais tu produis aussi des
oui.
plantes tinctoriales.
Ouais, c'est ça.
Donc tu as aussi une partie de récolte, j'imagine, jardin, de traitement un peu ça. Entre les deux
séchage.
Avant de pouvoir l'utiliser.
Alors j'ai une partie en ramassage en sauvage, mais il faut quand même que je fasse sécher. Et une partie qui sort de mon jardin. J'essaie d'avoir des vivaces, mais j'ai aussi quelques annuelles. Donc là, il y a une partie voilà, semi-plantation, récolte, séchage, broyage, et ensuite je peux utiliser.
Ouais, donc ça rajoute encore des
oui.
étapes.
Je suis plutôt du genre polyvalente, mais éparpillée. Voilà, donc j'ai trouvé un métier qui correspondait en fait.
Non, mais c'est super, parce que ça
oui.
veut dire que tu fais pas du tout la même chose chaque jour.
Oui, carrément.
Et du coup, tu as des savoir-faire manuels, j'ai envie de dire, très variés, parce que
oui,
ça demande plein de compétences.
C'est qui à la fois un avantage, parce que par exemple, si un jour, j'ai pas envie de travailler sur quelque chose, je peux vraiment faire complètement autre chose. Mais par contre, pour commencer, c'était un sacré truc, parce qu'en fait, ça demande quand même un savoir-faire assez important dans au moins 3 ou 4 domaines différents. Et c'est pour ça que j'ai mis quand même 2 ou 3 ans à vraiment commencer, quoi.
Moi, je voulais juste revenir sur un point. En fait, je voudrais peut-être un peu chiffrer ce que tu dis. C'est juste, tu dis, tu récupérais 300 kilos de laine, non ?
J'en amène 200 à la filature et je récupère 80 kilos lavé cardé.
D'accord. Et du coup, 80 kilos par rapport à une veste, c'est quoi ?
Alors, une veste pour un... Donc, disons, un grand 42, bien épais, ça fait plutôt presque 1 kilo. Et si c'est un 36 d'épaisseur 4 mm, donc le plus fin que je fais, là, c'est plutôt 600 grammes. Enfin,
donc, tu as quand même beaucoup de laine d'avance. Et ça te
oui,
permet,
j'ai beaucoup de laine d'avance. Voilà. Ouais. Parce que, pourquoi ? Parce que, en fait, se transformer, c'est quand même une opération. Ça veut dire que, en fait, la laine, c'est super volumineux par rapport au poids. Ça veut dire que j'emprunte un camion pour faire une heure de route, puis le retour. Et ensuite, quand c'est terminé, pareil. Et en plus, quand elle sort... C'est encore plus volumineux qu'au début, puisque
ouais.
c'est cardé, donc c'est, comment on va dire, expansé, quoi. Voilà, donc c'est quand même pas mal de... Et puis, moi, je peux pas trop savoir quelle durée d'attente va avoir la filature, donc
ouais.
il vaut mieux que je prévoie large. C'est pour ça que je le fais plutôt pas tous les ans.
D'accord. Okay. Puis aussi, enfin, je suppose que tu fais aussi quand même quelques expériences ou pas ou...
Oui, carrément.
Parce que du coup, t'as quand même beaucoup de laine.
Oui.
Tu peux t'amuser à produire des choses différentes ?
Oui, après, je fais aussi quelques expériences par rapport au mélange de laine. Donc, j'ai un gros stock de laine qui sont des lacones, donc les brebis à lait qu'on a ici. Et après, régulièrement, j'essaye d'autres laines pour voir si ça fait bien, qu'est-ce que ça a comme rendu, parce que chaque laine a vraiment un rendu feutré différent. J'ai essayé des mélanges de laine aussi. Cette année, j'ai de la lacone pure, de la lacone avec un petit peu de tarasconnaise. Après, j'ai les mélanges de couleurs. Donc, j'ai un rendu gris qui est fait en mélangeant 80% de laine blanche avec 20% de laine marron. Mais là, c'est pareil, dans ma laine marron, j'en trouve pas beaucoup, je récolte un peu tout ce que je trouve. Donc, dedans, c'est un mélange de races. Donc, ça, c'est des tests que j'ai dû faire aussi. J'ai vu que quand je mélangeais même des races qui feutrent pas très bien, avec beaucoup de lacone qui feutre super bien, en fait, ça fait un mélange qui est homogène.
Est-ce que tu peux juste expliquer en 2 secondes le principe du feutrage ?
Oui, bien
coup,
sûr. Ça
revenir là-dessus et nous expliquer pourquoi il y a des laines qui feutrent mieux que d'autres.
Oui, alors, le feutrage, donc le brin de laine, c'est comme nos cheveux. Ça a la forme d'une très longue pomme de pin avec des écailles emboîtées. Et donc, quand on feutre, il faut 3 facteurs. Le frottement, la chaleur et un pH plus ou moins extrême, enfin, par rapport au pH de base de la laine, on va bouger le pH, comme ça ouvre les écailles. Donc là, en l'occurrence, c'est le savon, qui a un pH légèrement basique, alors que la laine a un pH légèrement acide. Et donc, avec la chaleur et le pH du savon, on va ouvrir les écailles, en inondant la laine et en la savonnant. Et ensuite, on va frotter et les écailles vont s'imbriquer. Et donc, tout ça va s'emmêler. Donc, c'est une forme de tissu, mais qui n'est pas tissé.
D'accord. Tu faisais la comparaison avec les dreadlocks.
C'est une dread géante, le feutre. C'est ça.
Mais du coup, sous forme de nappe. Et après, tu peux découper et coudre avec.
C'est ça.
OK. Et du coup, pourquoi il y en a qui feutrent mieux que d'autres ?
Parce que la forme des écailles de la laine, ça varie suivant les races. Et donc, il y a des écailles qui sont assez lisses et on va dire plaquées dans la direction du poil de laine. Enfin, ouais. C'est pas facile à visualiser. Hein. Et il y a des écailles qui sont vraiment tournées vers l'extérieur comme des sortes de petits crochets.
Ouais.
Et du coup, comme c'est un crochet, bah, ça va s'accrocher très bien avec les autres crochets. Et celles qui sont plaquées contre le poil, elles ont du mal à s'accrocher, mais par contre, ça a un rendu différent, c'est brillant. Comme c'est plus lisse, ça renvoie la lumière.
Donc pour ça, c'est peut-être aussi intéressant de faire des mélanges, etc.
C'est ça. Ça dépend ce qu'on veut, en fait.
D'accord. Très bien.
Super intéressant.
Ouais, c'est trop bien. C'est marrant parce qu'on a déjà eu cette discussion et j'ai l'impression d'apprendre encore des choses. Nous, on voulait revenir un petit peu sur la filière laine. Parce que tu nous as expliqué que c'est un peu en cours de remontage. Il y a des trucs qui manquent, qui sont en train de revenir, etc. Oui. Et surtout, il y a des savoir-faire qui ont été perdus.
Oui.
Surtout au niveau de la teinture, mais je pense que dans la laine en général, il y en a aussi. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ?
Oui. Alors, en Ariège, on a de la chance parce que le processus est vraiment enclenché. Je veux dire, c'est parti, quoi. Ça ne va pas revenir en arrière. La filière est en train de se remonter. Mais c'est un peu à tous les niveaux qu'il y avait eu dans les années, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais vers les années 60-70, il y a eu une perte de... Il y a eu une cassure dans la transmission de la connaissance. Pour la teinture, c'est avant, mais pour la sélection des races, je pense que c'est à peu près à ce niveau-là. C'est-à-dire que des races, par exemple, de brebis qui avaient été sélectionnées pour leur laine depuis des centaines d'années, en quelques années, vu qu'on ne faisait plus de laine française, on a croisé les bêtes, donc on a perdu des centaines d'années de sélection, même si je ne suis pas forcément pour une sélection, mais en tout cas, on a perdu un savoir en 10 ans, quoi. Et ensuite, au niveau des filatures, la plupart des filatures en France sont fermées. C'est assez difficile encore de sortir de la transmission familiale et donc de donner une vraie stabilité à une filature, parce que quand même maintenant, on arrive à plusieurs cas où les personnes qui tiennent les filatures ont 50 ans et en fait, il n'y a pas de repreneur dans leur famille, quoi. Donc, si quelqu'un d'extérieur ne reprend pas le flambeau, ça va fermer.
Ouais.
Donc, ici, la chance qu'on a, c'est que la filature de Nio est sortie du cadre familial et est reprise par une équipe ultra dynamique. Donc, ça tourne bien. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'en Ariège, il y a une filière laine qui est structurée. C'est qu'il y a cette filature qui rayonne. À quel autre niveau ? Après, en fait, comme on s'est déshabitué de récolter la laine, on a vraiment perdu les savoirs à toutes les étapes. Par exemple, les tondeurs, c'est pas qu'ils savent plus faire, mais ils ont perdu l'habitude d'avoir un chantier pour la récolte de la laine. Donc, c'est-à-dire si tu tonds juste pour que ça soit brûlé ou mis en tas, tu vas pas t'embêter à tondre
d'une certaine façon
qui permet d'avoir une fibre optimale. Donc ça, c'est pareil, il faut redire, ah oui, mais là, moi, j'ai besoin que ça soit comme ci ou comme ça. Et oui, et au niveau de la teinture végétale, dès que la chimie est apparue, on s'est désintéressé, en fait, de ces savoirs-là. Donc on a perdu pas mal de choses. Et puis surtout, on n'a jamais utilisé les outils scientifiques qu'on a aujourd'hui pour analyser ce qui se passe dans ces teintures végétales. Ce qui fait qu'il y a plein de plantes où encore actuellement, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qui se passe quand on fait la teinture, alors qu'on sait le faire depuis 2000 ans. Donc c'est assez fou. Mais ça, c'est bien en route aussi. C'est-à-dire, moi, j'ai fait des stages, là, certaines de mes profs bossaient avec l'INRA pour refaire des protocoles du XVIIe siècle et tout analyser pour savoir ce qui se passe quand on fait tel protocole, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on a des textes du XVIIe siècle où il n'y a pas de pêche-mètre, il y a des thermomètres, mais voilà, guère plus, quoi. Donc, ils ont des repères empiriques, qu'est-ce que ça sent, à quoi ça a goût.
Ouais, mais il y a des trucs qu'il vaut mieux pas les goûter, voilà. Il y a des produits qu'il vaudrait peut-être arrêter d'utiliser, ouais. Et donc ça serait bien d'avoir un peu plus de science là-dedans pour savoir un peu ce qu'on fait, ouais. C'est ça.
Oui, et puis même, même la production de plantes tinctoriales, ça redémarre un petit peu dans certaines régions, et donc si on sait ce qu'il y a dans la plante et qu'est-ce qui réagit au moment de la teinture, on a des informations pour la culture de la plante aussi, sur quel terroir on peut la mettre pour que la molécule qu'on cherche soit présente de manière optimale, comment on fait le séchage pour que ça... Voilà, tout ça. Donc ça, donc c'est quand même intéressant d'avoir un regard scientifique sur ce processus.
Il y a plein d'étapes, en fait, dans ton travail. Tu fais jamais la même chose, etc. Est-ce qu'il y a un truc que tu préfères? Ou alors, au contraire, c'est plus cette diversité-là?
Non, je crois que j'aime la diversité, en fait. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je pense que j'ai vraiment trouvé un métier qui correspondait à mon caractère à ce niveau-là. J'ai besoin de diversité. Et je sais qu'avec ce métier, je ne pourrais jamais m'ennuyer, parce que même si je veux me focaliser sur un truc, par exemple la couleur bleue, bah, je pourrais y passer 10 ans, tellement c'est vaste. C'est vaste. Donc...
Oui, et puis par rapport à ce qu'on disait juste avant, tu as aussi un champ d'expérience.
Oui, c'est ça. J'avoue que c'est ça qui est super excitant aussi dans ce métier, c'est que... Bah, il y a tout à refaire, donc c'est quand même super enthousiasmant, quoi. Il y a un côté pionnier qui est sympa. Même si, du coup, c'est vrai que des fois, on regrette un peu de ne pas pouvoir trop compter sur le travail des autres avant. Même si moi, j'ai de la chance parce que je suis quand même plutôt la deuxième génération des gens qui se réintéressent à ces métiers ou à la teinture. Donc je pars moins dans le brouillard que mes prédécesseurs. Mais quand même...
Et du coup, on parle un peu de points positifs. Je voudrais aller de l'autre côté. Enfin, c'est pas forcément négatif, mais comment t'as réussi à arriver à en vivre? Est-ce que t'as des contraintes particulières de... Ça peut être des horaires, des trucs physiques, des plein de choses. Et est-ce qu'il y aurait besoin de quelque chose pour améliorer en fait le fonctionnement de ton travail?
Alors, est-ce que j'arrive à en vivre? J'y suis presque. Déjà cette année, j'ai réussi. Que dire? Vaste sujet. Je pense que je vais y arriver parce que j'ai choisi une taille un peu intermédiaire entre un artisanat extrêmement petit et on fait toutes les étapes à la main et une grosse structure, enfin une grosse structure, genre avec 2 salariés, quoi. mais qui demande plus de charges. Donc moi je suis entre les deux. J'ai des contraintes de saisonnalité, notamment parce que mon atelier n'est pas isolé, donc il y a des choses que je ne peux pas faire quand j'ai trop froid ou trop chaud. Mais ça c'est un aspect que j'aime bien en même temps. J'ai des contraintes physiques, parce que c'est quand même plutôt très physique. Donc oui, voilà. Mais ça c'est... Mais je pense que c'est quelque chose que j'aime bien en fait aussi. Le fait de... Bah d'une part... En fait, quand on fait quelque chose de physique, bah, y a un rapport au corps que j'aime bien. Et puis de toute façon, en fait, moi, depuis que je suis petite, je m'étais dit je voudrais une vie dans laquelle j'ai pas besoin de faire du sport. En fait, je trouvais ça irrationnel au niveau des dépenses d'énergie.
Ouais.
Y avait un truc pas logique, quoi. De se dire, en fait, je vais faire un travail où je suis assise toute la journée et où j'ai besoin de me dépenser et je dois payer... pour faire du sport dans un club et me dépenser. Et voilà, donc ça, pour moi, c'était vraiment évident que je voulais que ma vie comprenne une dimension physique et que les choses soient plus... Ouais, qu'il n'y ait pas cette rupture entre travail et après sport.
C'est vrai que c'est important.
Bon, en tout cas, pour moi, ça l'est. Après...
Puis, tu as la possibilité de travailler aussi un peu en extérieur.
Oui.
Parce que bah, y a déjà la culture des plantes,
oui.
Un peu. Et puis l'autre fois, tu nous as proposé qu'on a juste feutré dehors
oui.
Pour dire il fait beau, on en profite et
oui.
Tout. Et ça, c'est cool parce que du coup, tu as plus de liberté vis-à-vis de ça.
Oui. Et après, c'est sûr que, bon, comme je te disais l'autre jour, pour moi, le rapport à un métier manuel, c'est aussi un rapport à la douleur. C'est-à-dire que Joachim, comme moi, on a quand même en tête que peut-être on ne pourra pas faire ça trop vieux non plus. Parce que l'arthrose, parce que la sciatique.
Ouais.
Et donc, c'est des choses qui sont présentes dans ma vie. Moi, je travaille souvent les mains dans l'eau. Bon, dans l'eau chaude, mais quand même. Donc, j'essaye de préserver mes mains, mais je sais qu'à un moment, j'aurai de l'arthrose. Voilà, quand je feutre beaucoup, je sais qu'il faut que je fasse super attention pour pas réveiller ma sciatique, puisque j'ai pas l'intention d'avoir une hernie discale, mais en fait, ça demande du travail de surveiller ça. Mais en même temps, en fait, c'est vraiment un choix de sa contrainte. Et moi, j'ai choisi cette contrainte-là, et je préfère largement chouchouter mon corps et me dire, bah, comme je fais un travail rude, j'ai besoin d'un certain confort et de me préoccuper de mon corps, plutôt que de devoir penser les blessures de mon âme face à une hiérarchie débile ou un métier qui me blesse dans ma sensibilité. En fait. Je trouve ça plus facile à réparer.
T'as bien raison. Et du coup, je vais enchaîner directement sur... D'habitude, c'est notre dernière question, mais c'est pas grave, on va faire dans l'autre sens parce qu'on parle de ça. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur tes mains ou qu'est-ce que tu voudrais leur dire ?
Qu'est-ce que je voudrais leur dire ? elle est bien cette question. Ben, je voudrais leur dire qu'on va faire du boulot ensemble encore longtemps et que du coup, je vais les chouchouter. Après, je suis très contente de mes mains qui s'élargissent petit à petit. Moi, j'ai fait quand même des études longues pendant longtemps. Ce que je faisais toute la journée, c'était écrire, tenir un stylo. Et en fait, j'aime bien le fait que mes mains s'élargissent et que j'ai de la force et qu'elles savent faire plein de choses.
Trop bien. Et du coup, je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui voudrait se lancer dans le métier que tu fais ou alors un métier manuel en général ?
Je ne sais pas si c'est un conseil réaliste, mais en tout cas, moi, ça serait plutôt de ne pas trop écouter les gens qui disent que ce n'est pas possible. même si c'est sûr, des fois, on se heurte à des impasses ou quoi, mais moi, on m'a beaucoup dit que ce n'était pas possible, que je ne gagnerais pas ma vie, que la laine que j'utilisais n'était pas assez noble. Et en fait, j'y ai pas cru et j'ai bien fait. Et ouais, pas trop écouter les oiseaux de mauvais augure, quoi. Et après, sinon, pour un métier manuel, bah, chouchouter son corps, vraiment. Ouais, vu que c'est ton outil de travail, bah, faut l'entretenir, quoi. C'est comme graisser un sécateur. Voilà.
Ouais. Super. Ben, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ben, avec plaisir.
Merci bien.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté Les Mains Libres, épisode 13, en compagnie d'Hélène. Si tu as aimé cette discussion, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines. Tu peux aussi partager l'épisode autour de toi et nous laisser un petit commentaire pour aider à faire connaître Les Mains Libres. C'est possible directement sur ton appli. Cet épisode a été financé par Dominique, qu'on remercie chaleureusement pour son soutien. Dans le prochain épisode, on t'emmènera en Gironde à la rencontre de Milou, qui cultive des champignons et des endives dans des carrières souterraines. Allez, à bientôt !